Bien, bonjour à tout le monde. Je vous salue de la part de l'église de Courcelles, l'assemblée chrétienne de Courcelles, dont le pasteur principal s'appelle Jacques Lemaire. Vous allez d'ailleurs le recevoir bientôt. Il me semble qu'il a prévu, avec votre pasteur, de venir au mois de novembre, si je me trompe. Oui. Le 16 novembre. Le 16 novembre. Oui. Alors, l'année prochaine, il prend sa pension. Il a 65 ans. Il va continuer le ministère, mais il va faire plus de ministère d'enseignement itinérant. Et je serai normalement élu pasteur à sa suite. Pour l'instant, je suis assistant paroissial, techniquement, ça veut dire assistant pasteur, parce que j'ai un ministère itinérant. Je voyage régulièrement à travers le monde pour prêcher l'évangile et exhorter les églises. J'ai surtout été envoyé vers les églises. Je n'ai pas été envoyé vers les perdus, moi. J'ai été envoyé vers l'Église pour édifier l'Église. Parfois, les gens, ils ne comprennent pas bien ça, mais je pense que dans le royaume de Dieu et dans le corps de Christ, on a chacun des dons particuliers. Et je pense que la grande mission que Jésus nous a laissée à la fin de l'Évangile de Matthieu, quand il nous envoie faire de toutes les nations des disciples, qui nous dit de leur enseigner tout ce que lui, il a enseigné, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça s'adresse à toute l'Église. Mais dans cette mission, nous avons chacun de nous des petits rôles à jouer. Personne ne peut être à la fois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. On ne peut pas remplir la grande mission à nous seuls. On a besoin des uns et des autres. Et ça me fait penser que l'apôtre Paul lui-même, quand il était en train de faire son ministère envers les Corinthiens, il leur écrivait une lettre et il leur disait « Je n'ai pas été envoyé baptisé ». Pourtant, quand nous lisons la mission que Jésus a donnée, c'est de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit « Je n'ai pas été envoyé baptisé ». Moi, je n'ai baptisé que 2-3 personnes parmi vous. Du reste, je pense que je n'ai baptisé personne. Parce qu'il savait ce qu'était son rôle. C'est important que chacun de nous sachions quel est notre rôle, quelle est notre place dans la mission. Et si chacun de nous entrons profondément dans le rôle que Dieu nous a assigné, l'Église commence à avoir de l'efficacité. L'erreur vient quand on nivelle tout et qu'on désire que tout le monde se ressemble. On met tout le monde dans le même moule. Et Dieu, il ne fait jamais des copies. Amen. Dieu ne fait que des œuvres originales, uniques. Et nous avons chacun de nous besoin de découvrir ce que nous sommes. C'est pour ça que je vous disais en commençant que Dieu ne m'a pas envoyé évangéliser, Dieu m'a envoyé vers les églises pour enseigner et les encourager. C'est mon rôle. Et je ne suis pas frustré que je n'ai pas les autres rôles. Il y a des autres qui le font bien mieux que moi. Et en travaillant ensemble, eh bien, on peut aller très loin. Et non seulement, je pense que chacun de nous avons un appel. Mais je crois aussi que les églises elles-mêmes, elles ont chacune, un appel particulier. Toutes les églises ne sont pas appelées à se ressembler. Chaque église a un appel. Vous avez ici un appel de la part de Dieu, qui n'est pas le même que les autres églises dans la région, s'il y en a, parce que pour l'instant je vois beaucoup de vaches et de champs. En traversant ici, je suis passé devant, j'ai loupé l'église, parce que vous êtes vraiment dans un endroit très rural. Il se peut que vous soyez la seule dans la région, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas appelé à leur ressembler. Vous n'êtes pas appelé à ressembler à notre église à Courcelles. Vous êtes appelé à être la perle unique de Dieu dans cette région, qui a un message unique, parce que Dieu vous a placé ici avec un message unique que la population ici a besoin d'entendre. Et c'est pas une autre église qui pourra faire ce travail-là. C'est pas un hasard si vous êtes dans cette pièce ce matin. Et ce n'est pas un hasard si Dieu a implanté l'église ici, si Dieu vous a placé ici pour servir dans cette région. Si vous étiez ailleurs, vous ne pourriez pas faire le travail que Dieu vous appelle à faire. Il maîtrise tout, il guide tout, il a une main de maître par rapport à la formation de son église et son royaume. Rien n'est livré au hasard dans les choses de Dieu. Et nous devons apprendre à être à notre place et à nous réjouir de notre place et à découvrir quels sont nos dons. Ça fait partie de mon appel. Ça fait partie de mon appel, l'appel que Dieu m'a donné, c'est d'aller dans les églises, d'aller dans les milieux chrétiens, dans les conventions chrétiennes, et de faire lever les dons, de faire lever les ministères, de faire lever les vocations. Parce que Dieu appelle. Et j'ai souvent remarqué que dans les églises chrétiennes, il y a des personnes qui sont appelées à servir Dieu, qui sont appelées à aller de l'avant avec Dieu, mais qui ont peur de démarrer, ou qui ne savent pas exactement à quoi ils sont appelés, et ils ont besoin juste d'un petit coup de pouce. C'est mon grand plaisir d'aller dans une église et de pouvoir apporter humblement une parole. Et puis, parfois, il y a un effet, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis toujours très ému de voir ça, que Dieu puisse nous utiliser, mon épouse et moi, de cette façon-là. Il y a quelques mois, j'étais dans une des églises d'Alfred Kuhn à Strasbourg. Vous le connaissez, c'est quand même un grand auteur évangélique. C'est une église de frères, une église qui n'est pas nécessairement ouverte au charisme du Saint-Esprit. Et j'étais un petit peu embêté sans doute, d'y aller. Je me dis, comment est-ce qu'ils vont réagir? Moi, je ne suis pas un pasteur comme ils ont l'habitude de recevoir. J'ai un appel prophétique et je sais qu'ils n'y croient pas à ces choses-là. Et j'ai été étonné de voir que les frères, là, étaient plus ouverts aux choses du Saint-Esprit que parfois certaines églises pentecôtistes. Faut pas se fier aux dénominations, aux étiquettes que l'on donne aux gens. Là où il y a des cœurs qui cherchent Dieu et qui aiment Dieu, là le Saint-Esprit règne. Vous savez, dans mes voyages, j'ai vu certaines églises qui n'étaient pas charismatiques, pas pentecôtistes, mais qui exerçaient sans le savoir les dons spirituels bien mieux que certains pentecôtistes. Le pasteur dit, bon, nous avons des malades parmi nous, adressons une prière à Dieu pour les malades. Il prie pour les malades. Il fait une intercession à Dieu. Les malades se remettent. Il ne dit pas qu'il a un don de guérison. Pourtant, il en a un. Il ne s'en rend pas compte. Et Dieu exauce ses prières et les malades guérissent. Ça, c'est formidable. Le Saint-Esprit, il ne fonctionne pas dans les étiquettes et les attitudes de m'as-tu vu que parfois on peut avoir. Il fonctionne dans l'humilité, le service et l'amour des uns envers les autres. On a besoin de chacun de nous trouver notre place. Je vous exhorte à chercher à devenir la perle unique que Dieu a désiré que vous soyez pour cette communauté, pour cette région. Le Saint-Esprit a un plan pour vous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 6. Je pense bien que beaucoup connaissent ce texte par cœur. C'est le texte de la vocation du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, nous allons lire les 8 premiers versets. C'est un texte bien, bien connu. C'est le texte que le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous partager ce matin. Ésaïe 6, 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton péché est enlevé, ton iniquité a été expiée. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. C'est un texte qui commence avec le souvenir d'un événement très triste. C'est l'année de la mort du roi Ozias. C'est cette année-là que Ésaïe a reçu cette vision incroyable dans la maison de Dieu. Pour rappel, Ozias, il avait très bien commencé, mais très mal fini. Vous vous rappelez, à un moment donné, on le lit dans 2 Chroniques, il avait décidé d'usurper la place des prêtres, et il avait pénétré dans le lieu saint où les prêtres devaient officier, et il s'était emparé d'un encensoir, et il voulait adorer Dieu avec l'encensoir. Et il s'approchait de la présence de Dieu. Il n'était pas dans le Saint des Saints, il était dans le lieu saint où les prêtres étaient. Et alors, il faisait, comme on voit parfois dans les églises catholiques, il encensait Dieu, c'était un rituel qu'on pratiquait à l'époque. Et les prêtres lui ont dit, Ozias, il ne t'est pas permis d'entrer ici, c'est seulement les prêtres qui peuvent y être. Et lui, il s'est mis en colère contre eux. Et alors, pendant qu'il était en train d'encenser Dieu, la lèpre a éclaté sur son front. Et il s'est rendu compte que Dieu l'avait frappé. Les prêtres l'ont tous le regardé. Et il est parti lui-même de façon très précipitée. Et la Bible dit que jusqu'à la fin de sa vie, Ozias était lépreux, il vivait à part, il ne faisait plus partie de la royauté, bien qu'il était encore roi, mais il était comme un reclus, il vivait séparé et il mourut comme ça. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette année-là, une année horrible, une année tragique, que celui que Dieu a oint comme roi sur Israël, il a été frappé de lèpre par Dieu et il est mort de ça. C'est cette année-là que Isaïe reçoit cette vision. Je crois que ce que Isaïe voit ici, c'est le côté spirituel qui échappait à Ozias quand il a osé pénétrer dans la présence de Dieu alors que ce n'était pas sa place. Dieu habite au milieu de sa maison. Il habite dans son temple, sa gloire remplit sa maison comme s'il était assis sur un lieu très élevé, sur un trône, et les pans de sa robe, c'est-à-dire sa gloire qui rayonne de lui, elle descend jusque dans le lieu saint. Et Ozias, il n'avait pas conscience de ça, Isaïe l'avait vu. Vous savez, on peut être dans la maison de Dieu et ne pas se rendre compte de là où on est. On peut être en plein dans la présence de Dieu et ne pas s'en rendre compte. Dieu peut être juste à côté de nous, se manifestant dans sa gloire, et nous, on est complètement fermés à ces choses-là. Ça me fait penser à Jacob quand il était à Bethel. Il se réveille d'avoir fait un rêve dans la nuit, et il dit « Dieu était dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Parce que parfois, on peut être assis dans l'église, on peut être là même à chanter des cantiques, et on n'a pas conscience de la présence de Dieu. On a besoin que cela nous soit révélé. Parfois, nous sommes dans l'église, nous sommes en train d'adorer, nous chantons des cantiques à Dieu. Il y a une telle présence de Dieu qui touche nos cœurs. Et alors, parfois, j'ai la mauvaise idée de me retourner et de regarder un peu notre assemblée pour voir ce qui s'y passe. Et je vois certains qui sont vraiment très exaltés, ils ont le visage rayonnant, ils sourient, ils tournent leur visage vers Dieu et on voit bien qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils adorent. On voit briller sur leur visage la présence du roi. Et puis, juste à côté de cette personne-là, il y en a un autre qui est là comme ça. Et il regarde les mouches voler. Et je me dis, mais comment est-ce possible que nous soyons assis l'un à côté de l'autre? L'un vit une expérience profonde avec Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Et celui à côté, il n'a conscience de rien du tout. Ça montre que cela doit nous être révélé. Nos yeux ont besoin d'être ouverts pour que nous puissions reconnaître la présence du Seigneur. Il y a une présence du Seigneur dans votre communauté. Il y a une présence du Seigneur dans votre communauté. Vous avez un cœur qui plaît à Dieu. Et il y a un esprit de prière, il y a une attitude révérencieuse envers Dieu qui lui plaît vraiment dans cette église. Je voyage régulièrement, vous savez, je passe parfois par des églises et je me demande si Jésus fréquente parfois cette église. Parfois je passe dans des endroits, je suis allé au Mexique il y a quelques années, j'y vais deux fois par an, dans une église, je suis entré dans l'église et ils ont commencé à chanter et j'avais un malaise insupportable qui me remplissait, comme si je n'étais pas dans une église chrétienne. Et les gens de l'église étaient de braves personnes, les personnes priaient, elles chantaient. Mais il y avait un gros problème dans cette église, Jésus-Christ n'était pas mis au centre. Le pasteur, je l'ai appris par après, enseignait qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin qui mène au ciel, que Jésus était un parmi d'autres. Et ça c'est très grave, très grave. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus. Et dans cette église, je me sentais mal à l'aise et je me disais, mais je ne suis pas dans une église chrétienne, ce n'est pas une église chrétienne ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas ce que je ressens parmi vous, je ressens la présence du Seigneur, Jésus est là. Il est au centre, il est là, vous l'aimez, ça se ressent. C'est impossible d'être en présence de quelqu'un qui aime Jésus et ne pas le sentir. Ou alors il faut être complètement aveuglé. Il y a un rayonnement dans le cœur, il y a une présence dans le cœur. Et si, en tant que communauté, vous voulez aller plus loin avec Dieu, chacun de vous dans votre appel, et vous approcher encore davantage de sa gloire et de sa présence pour le connaître mieux, c'est important d'être chacun à sa place, de répondre à l'appel de Dieu. Il y a un appel de Dieu pour chaque personne. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est que je sois en train de faire quelque chose, une chose à laquelle Dieu ne m'a pas appelé. Parce que qu'est-ce qui se passe si je fais quelque chose, une chose à laquelle Dieu ne m'a pas appelé? J'occupe la place de quelqu'un d'autre qui devrait le faire. Et moi, je fais quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas édifiant et qui n'est pas utile. Et il y a une double erreur. Je ne suis pas là où je devrais être, et donc il y a un vide et un manquement quelque part, mais j'usurpe la place de quelqu'un d'autre qui souffre, parce que lui, il devait être à cette place-là, il ne peut pas l'être. Ça fait une double erreur. C'est tellement important d'être à sa juste place, d'être là où Dieu nous veut. Et bon, n'ayez pas peur, je ne veux pas vous dire que vous allez avoir la lèpre comme le roi Ozias, hein. Mais lui, il était clairement pas à sa place. C'était un roi, il exerçait son travail de roi d'une manière magistrale, superbe, mais il n'était pas content de ça, il voulait la place des autres. Il voulait la place des prêtres. Et en résultat, il a perdu tout ce qu'il avait. Ce qu'il avait et même ce qu'il voulait avoir, il l'a perdu. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il croit avoir. Ozias, il rentrait dans la présence de Dieu, il offrait un culte à Dieu, mais à la légère. Il avait peu de crainte de Dieu. Il ne savait pas que Dieu était saint, était glorieux, et ne permettrait pas qu'il aille comme ça devant lui. Ozias, il était rempli de présomption à ce moment-là de sa vie. Il n'avait pas de conviction de péché. Il ne se rendait même pas compte. Il a fallu que quelque chose de grave lui arrive. Alors, c'est vrai que on peut se dire que ça, c'est l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. Mais moi, je vois que dans le réveil de Jérusalem, au temps de la Pentecôte, Ananias et Saphira ont subi un sort peut-être pire que celui d'Ozias. Voyez, notre Dieu est un Dieu saint. Et nous avons besoin d'être conscients de sa sainteté lorsque nous entrons dans sa présence. Nous avons besoin de nous rendre compte que c'est pas ce bâtiment qui compte, mais c'est l'assemblée que nous formons entre nous. Il vient, il habite au milieu de nous, parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Et il est le Saint d'Israël, il est présent au milieu de nous, et quand nous entrons dans sa présence, il faut que nous reconnaissions sa sainteté, et que nous le laissions nous mettre à part là où il nous veut. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître. Alors, c'est pas la première fois dans l'histoire d'Israël où quelque chose du genre se passe. Vous vous souvenez de Aaron, il avait deux fils, ses fils aînés qui s'appelaient Nadab et Abihu, qui ont voulu prendre la place de leur père à offrir le feu devant la tente où l'autel se trouvait, où Moïse adorait. Et un feu est sorti, les a consumés. C'est quelque chose de récurrent dans la Bible. Il y a un message récurrent dans les Écritures que il faut que chacun de nous soyons à notre place. Pas à la place du voisin, pas à faire autre chose que ce à quoi Dieu nous a appelés. Parce que c'est comme ça qu'on le glorifie et c'est comme ça qu'on fait apparaître sa sainteté. Et alors Dieu, quand il a brûlé à Nadab et Abihu, il a dit, je paraphrase, il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. On est là ce matin pour s'approcher de Dieu. On n'est pas là pour faire un culte religieux. On est là pour s'approcher du Dieu vivant, créateur de toutes choses, qui nous a rachetés par le sang de son Fils, et qui nous a oints du Saint-Esprit pour que nous soyons des prêtres et des prêtresses de Dieu sur cette terre, à notre place. On est là pour faire quelque chose de glorieux, faire quelque chose de puissant. Et Dieu désire vraiment dans votre communauté faire lever les dons, les appels, les ministères, les vocations de chacun avec beaucoup de précision. Ne vous laissez jamais culpabiliser parce que vous n'êtes pas comme quelqu'un d'autre. Ne vous laissez jamais culpabiliser parce que vous ne faites pas ce que quelqu'un d'autre fait bien mieux que de toute façon vous pourriez faire. Nous avons reçu un serviteur de Dieu qui fait du bon travail. C'est un évangéliste il y a quelques mois, nous l'avons reçu et il nous a beaucoup culpabilisés. Il nous a beaucoup accusés parce que nous ne faisons pas le travail que lui fait. Et il nous mettait vraiment un fardeau très lourd sur les épaules parce qu'il considérait que ce que lui fait pour le Seigneur était ce que tout le monde devrait faire. Et puis nous avons reçu quelqu'un d'autre, nous avons reçu un enseignant. Et l'enseignant, lui, il pense que tout le monde devrait être enseignant. Et il ne comprend pas que nous ne comprenions pas les concepts compliqués qu'il arrive à manier. Et il trouve qu'on est un peu, entre guillemets, attardé, parce que nous ne sommes pas comme lui, il est. Et puis nous recevons un prophète. Et le prophète, il nous dit, vous devriez tous entendre la voix de Dieu comme moi et prophétiser comme moi, c'est facile! J'ai rencontré il y a quelques années un pasteur qui a un très grand don de guérison. Il a beaucoup de résultats dans la prière pour les malades. Et alors nous sommes allés là-bas pour l'écouter et pour apprendre de lui, parce que nous sommes prêts à apprendre. Et il disait, mais les amis, c'est facile de prier pour les malades. Il suffit de poser vos mains et d'invoquer le nom de Jésus, et Jésus agit. Oui, mais quand je le fais, ça marche pas aussi bien que toi, hein. Et il ne comprenait pas que pour nous, c'était plus difficile que pour lui, parce qu'il avait un don. Voyez, les amis, le problème qu'on a souvent, c'est que on prend notre cas pour une généralité. Ah, si seulement tout le monde était comme moi. C'est ça qu'on se dit. Si tout le monde était comme moi, les choses iraient mieux. Non. Tout le monde doit devenir comme Dieu veut qu'il soit. Et alors la beauté du corps de Christ va apparaître parce que chacun sera unique, sera parfait, sera à sa place. Et en fin de compte, vous savez, c'est ça premièrement, être saint. La sainteté, littéralement, dans l'hébreu, ça veut dire être mis à part. Mis à part pourquoi ? Mis à part pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés et on reste là où il nous a mis. Les chrétiens parfois pensent que saint, ça signifie être parfait. Eh bien, alors dans ce cas, il n'y a aucun de nous qui sommes saints. Parce que je ne suis pas encore arrivé à la perfection. J'ai envie de dire comme l'apôtre Paul, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je tends vers l'avant et je cours vers le but pour saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais mes frères, comme disait Paul, je ne pense pas être déjà arrivé à la perfection. Et pourtant, il était vachement plus loin que nous. Mais il était saint. La sainteté, c'est être mis à part. Si j'avais pensé, je vous aurais amené ma brosse à dents. C'est souvent ma brosse à dents que j'utilise pour illustrer la sainteté. Et les gens, ils me font toujours une drôle de tête. Je dis, vous voulez voir un objet qui est très saint pour moi ? Je l'ai pas aujourd'hui, je sors ma vieille brosse à dents. Ma femme peut vous témoigner, une brosse à dents ne dure pas très longtemps avec moi. J'ai une manière de me brosser les dents assez énergique, brutale, qui fait qu'au bout de 3 utilisations, la brosse à dents, elle est... Comme ça, il faut la remplacer toutes les semaines. Et alors je dis souvent aux gens, voilà un objet qui est saint pour moi. Ils se disent, ils délirent un petit peu. Oui, ma brosse à dents, elle n'est pas parfaite. Elle a les poils hirsutes. Mais elle est sainte pour moi parce qu'elle est mise à part pour moi. Et si tu la mets dans ta bouche, eh ben je ne la veux plus. Les objets du culte dans l'Ancien Testament étaient saints pour Dieu. La fourchette avec laquelle on piquait dans la marmite, les instruments avec lesquels on arrangeait les pains, le chandelier, toutes ces choses, c'est tous des objets saints. Pourtant, ce ne sont que des objets. Mais ils étaient saints parce qu'ils ne pouvaient pas servir à un usage profane. On ne pouvait pas prendre la fourchette et puis aller chez soi et piquer son rôti avec. Ça restait dans le temple, même les vêtements des prêtres étaient saints. Quand ils sortaient du temple, ils devaient se dévêtir de leurs vêtements et mettre des autres vêtements. Et ils devaient souvent s'habiller et se déshabiller comme ça, parce que leurs vêtements étaient consacrés à Dieu. Eux-mêmes, ils étaient consacrés à Dieu à tel point qu'ils ne pouvaient pas aller à un enterrement parfois. Il leur était interdit d'enterrer. Le grand prêtre ne pouvait pas se souiller en enterrant même un membre de sa famille. Parce qu'il était mis à part pour Dieu. Pourtant, il n'était pas parfait. Aaron n'était pas parfait. Il s'est fait reprendre par Dieu à plusieurs reprises. Quand ils ont râlé contre Moïse, quand ils ont protesté contre Moïse, lui et Myriam, pas parfait. La sainteté, c'est d'être mis à part. Dieu va te parfaire. Il t'a fait Il est en train de te parfaire. Il est en train de travailler ta vie pour te rendre semblable à son fils Jésus. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi dans ce moment? C'est que tu sois mis à part et que tu ailles vers lui en lui disant « Seigneur, je ne suis pas parfait encore, mais je suis prêt à le devenir avec ton aide. Mais je suis à toi, tel que je suis, mis à part pour toi, pour te servir. Et je ne vais pas faire ce que quelqu'un d'autre peut faire. Je vais faire ce que tu m'appelles à faire et rien d'autre. » Mes frères, ne vous laissez jamais culpabiliser par quelqu'un qui a d'autres dons que vous et qui vous, en quelque sorte, qui fait pression sur vous pour que vous essayiez de faire ce que lui fait. Malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu sont comme ça. Ils prennent leur cas pour une généralité. Et ça, c'est triste parce que alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous se ressembler. Au lieu d'être tous uniques, d'être tous à l'image de Jésus, l'exemple, le modèle que nous devrions tous suivre. L'apôtre Paul dit de « Nous avons chacun de nous reçu une mesure du don de Christ. » Découvrir ta mesure de Christ, c'est découvrir ta vocation, ton appel, ton ministère, tes dons. Tout ça va découler de ça, c'est normal. C'est la mesure du don de Christ qui est en chacun de nous, elle ne demande qu'à apparaître, elle ne demande qu'à se manifester. Et comment est-ce que ça se passe, ça? Comment est-ce que je peux découvrir qui je suis en Christ? À quoi suis-je appelé? Quels sont mes dons? Il faut une rencontre avec Dieu. Ici, nous le voyons dans le passage de la vocation d'Ésaïe. Ésaïe est appelé à servir Dieu suite à une rencontre intense avec lui. Ça ne veut pas dire que nous allons chacun de nous avoir une vision comme celle-là et de voir le Seigneur sur un trône très élevé et les pans de sa robe qui remplissent le temple et les séraphins qui se tiennent autour de lui, qui crient « Saint, Saint, Saint ». Ça, c'est pour Ésaïe. Personne d'autre n'a vu ce que Ésaïe a vu. Mais nous avons chacun de nous besoin d'avoir une rencontre avec Dieu. Un moment où le ciel et la terre s'entrechoquent, où l'homme que je suis est arrêté dans sa trajectoire et réorienté vers la direction que Dieu avait, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Une rencontre. C'est formidable, la puissance d'une rencontre avec Dieu. Un homme qui est un persécuteur de l'Église, un meurtrier, un religieux de son temps, parmi les plus grands, qui, on dit dans l'Écriture, qu'il respire la menace contre les chrétiens. Cet homme, Paul, qui s'appelait Saul à ce moment-là, il est touché par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. 3 jours, il est aveugle. Et après cela, il est prêt à mourir pour la foi qu'il persécutait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, parfois on montre dans les régimes la photo avant, après. Saul, Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait comme régime entre les deux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a changé complètement de vie juste parce que la puissance de Dieu l'a touché. Juste parce qu'il a rencontré Jésus-Christ d'une manière forte. Et pourtant, il était bien plus grave peut-être que la majorité d'entre nous. Son état était terrible. Il respirait la haine. Il servait Dieu par haine des chrétiens. Il les mettait en prison. Il les faisait exécuter, lapider. Il fermait les églises. C'était un persécuteur. Et en un instant, en 3 jours, voilà que c'est l'homme, l'apôtre, sans doute, le plus efficace du 1er siècle. Il a traversé l'Europe implantant des églises. Il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Quel ministère qui est né simplement d'une rencontre avec Dieu. Ésaïe, c'est la même chose. De tous les prophètes de la Bible, c'est le prophète qui a eu le plus long ministère. Mais quelle rencontre avec Dieu. Quand nous rencontrons la gloire de Dieu, plus nous allons être impactés profondément par cette rencontre avec Christ, plus nous allons aller loin avec lui ensuite. Plus nous allons nous approcher de sa présence et être touchés par lui dans le fondement même de notre être, plus nous allons être bouleversés et nous allons abandonner notre vie passée pour aller loin avec lui dans notre appel. On ne peut pas faire l'économie d'une rencontre avec Dieu. Vous savez, les gens qui entrent dans l'Église peuvent avoir une rencontre telle que celle-là avec Dieu parce que nous sommes ici en train de l'adorer et il siège au milieu de nos louanges. Il repose au milieu des louanges de son peuple, il siège, il s'assoit au milieu de nous. Je connais une dame qui vivait comme une médium, elle faisait de l'occultisme. Et elle a voulu se tourner vers le Seigneur, elle est entrée dans une église à Paris. Et dans l'église, personne ne lui a parlé, c'était pas une église très chaleureuse, elle n'a pas été accueillie. Et elle s'est assise au milieu. Et alors, elle ne comprenait rien aux discours des uns et des autres, aux paroles d'exhortation, elle comprenait rien. Le cantique, elle comprenait pas non plus ce que ça signifiait. Mais puis, tout d'un coup, l'église a commencé à élever sa voix dans une adoration à Dieu, d'une seule voix. Et dans ce moment-là, elle a vu le ciel s'ouvrir au-dessus d'elle, personne ne l'a vu. Et une lumière lui tombait dessus, et elle a été délivrée de tous ses démons, immédiatement. Et elle a dit, je veux servir Jésus. Juste parce que l'Église adorait. Quand on s'approche de Dieu et qu'on reconnaît sa présence, qu'on reconnaît sa sainteté, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le royaume se manifeste au milieu de nous. Et les personnes qui entrent en contact avec notre adoration sont touchées. Il y a les écailles qui tombent des yeux, l'aveuglement spirituel qui est ôté, les cœurs se tournent vers Dieu. C'est pour ça que, Camille, ton ministère est très, très, très important. Tu as une clé du royaume avec ton ministère au clavier. Tu ouvres ou tu fermes. Et quand tu permets aux autres de rentrer dans la présence de Dieu, et tu leur donnes d'accéder à un état de relation avec le Seigneur qui est plus haut que ce qu'ils avaient. C'est vraiment très 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 puissant comme ministère, la louange. J'ai envie de dire, c'est au moins aussi important que les autres ministères de l'Église. David en avait fait un ministère principal. Il avait retiré tous les obstacles qui empêchaient le culte à Dieu. Il avait mis l'Arche de l'Alliance dans une tente et il avait vu que les Lévites ne faisaient plus rien parce que les Lévites, en fait, ils devaient normalement démonter le tabernacle. Mais quand le tabernacle ne bouge plus, qu'est-ce qu'ils font les Lévites? Rien. Ou presque plus rien. Alors David a dit, on va faire des chantres avec vous autres. Et vous allez prendre des tours de garde, et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous allez tourner autour du tabernacle, vous allez chanter les louanges de Dieu, vous allez adorer Dieu. Et David a commencé un vrai réveil de louanges et d'adoration là-bas, qui a duré pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que Salomon construise le temple et qu'on fasse entrer l'arche là-bas. David a vraiment fait quelque chose de formidable. Il avait compris l'importance de la louange. Et de lui est né tous les psaumes et tout ce que ses disciples ont produit, parce qu'il y avait beaucoup de disciples de David qui ont écrit les psaumes. Ils ont prophétisé la venue de Jésus. Les psaumes n'arrêtent pas de parler de la venue de Jésus. Quand il y a un cœur d'adoration dans une église, il y a un mouvement prophétique qui naît. Toujours. Parce que ça va ensemble. Et quand nous adorons, l'Esprit de Dieu nous rend prophétiques et nous allons commencer à dire des choses et à faire des choses qui ont une portée, qui ont une efficacité. Quelque chose qui va annoncer le royaume de Dieu pour les gens de notre génération. Il y a vraiment quelque chose là avec l'adoration. Et en priant pour vous avant de venir, le Seigneur me mettait à cœur de vous dire qu'il veut faire une vraie révolution dans l'adoration dans votre Église. Pas que ce que vous faites n'est pas bon, je ne dis pas ça, c'est pas ça du tout. Mais il veut comme s'en emparer. Il veut que le vent de son esprit s'empare de votre adoration pour qu'elle monte à un plus haut niveau. Ce que je vois dans l'esprit, c'est comme une tornade, un ouragan de la présence de Dieu. Que les cœurs soient enflammés par le feu du Saint-Esprit d'une manière que vous n'avez encore jamais vue. Et que vous soyez happés dans les lieux célestes où vous allez avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Et à travers ça, mes amis, vous savez ce qui va se passer? Dieu va manifester les dons et les appels de chacun comme vous ne l'avez jamais vu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire quand je priais pour vous. Il veut faire un tourbillon dans les cœurs, un tourbillon de feu dans l'adoration et dans la prière, pour que ça monte à un autre niveau. Et que une fois que chacun aura réussi à pénétrer dans le saint des saints de la présence de Dieu, d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, les appels vont commencer à venir. Ça sera plus juste 2-3 personnes. Ça sera tout le monde. Qu'il plaise à l'Éternel que tout le peuple de Dieu soit prophétique.
qu'il plaise à l'Éternel, qu'il répande son esprit sur nous tous et que chacun de nous, nous découvrions nos dons, et nous laissions derrière les choses du passé pour aller plus loin avec lui, dans cette révélation de sa sainteté. Il faut qu'on laisse le Seigneur faire dans notre vie ces choses-là. Il faut qu'on le laisse faire. Alors, regardez les êtres, regardez les êtres que nous voyons apparaître dans cette histoire avec Ésaïe. Ils voient des séraphins qui adorent Dieu. Les séraphins sont parmi les anges, ceux qui sont autour de Dieu et qui l'adorent jour et nuit, dans l'intensité de sa présence. Le mot séraphin, ça veut dire les brûlants. Ils brûlent. Pourquoi est-ce qu'ils brûlent ? Ils brûlent parce qu'ils sont en présence de celui qui est un feu dévorant. Et l'Écriture nous dit qu'ils se cachent la face et ils se cachent les pieds avec des ailes. Et les deux autres ailes, ils s'en servent pour voler. Mais pourquoi se cachent-ils la face? Pourquoi se cachent-ils les pieds? Ils ne peuvent pas supporter l'éclat de la gloire de celui auquel ils sont en train de faire face. Ils sont si proches de Dieu que tout leur être est en train de brûler d'adoration pour lui. Et ils se cachent le visage parce que c'est impossible de soutenir l'éclat du Dieu vivant. Nul n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils de Dieu qui est dans son sein. Même les anges qui sont si proches, ils se cachent la face. L'éclat de Dieu est tellement insoutenable. Nous sommes appelés à aller plus près de Dieu que les séraphins. Les hommes ont une place dans le cœur de Dieu plus proche que tous les anges. Nous sommes les seuls qui ont été créés à l'image de Dieu pour communier avec lui. Et ils se cachent les pieds aussi, il est écrit. Pourtant, les anges sont saints. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher comme ça? L'Écriture, elle nous dit que Dieu, il est tellement saint qu'il trouve même des choses à reprocher à ses anges. Et pourtant, ils ne font rien de mal. Parce que les anges sont saints. Mais lui, il est saint, 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 au-delà de toute sainteté. Et même le plus saint, la plus sainte des créatures doit dire, Seigneur, malheur à moi, je suis perdu. J'ai les lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Pourtant, Ésaïe, mais t'es prophète, Ésaïe. Tu es un grand prophète, Ésaïe. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ésaïe, il est tellement rempli d'une conviction de péché. Il est tellement rempli de cet étonnement devant la sainteté de Dieu, qu'il crie « malheur à moi, je suis perdu ». Voyez-le, parfois on essaye de convaincre les gens de pécher par nos paroles. 10 secondes dans la présence de Dieu, ça fait l'affaire. On peut parfois prêcher 3000 sermons, il n'y a personne qui se convertit. L'apôtre Pierre, il a prêché un sermon et 3000 se sont convertis, le même jour. Parce qu'ils étaient transpercés par la présence de Dieu. Il y avait le Saint-Esprit qui était en train d'agir. On a besoin, chacun de nous, d'avoir une rencontre avec Dieu. Et j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que vous faites déjà, mais que Dieu veut propulser à un plus grand degré. À plus nous allons laisser s'approfondir en nous la conviction de péché, plus nous allons accepter ce que nous sommes devant Dieu, plus nous allons pouvoir aller loin dans l'appel dans lequel il nous propulse, dans lequel il nous lance. La profondeur de ta conviction de péché va déterminer l'altitude de ton ministère, de ton appel, de tes dons. Si tu n'as pas été profondément convaincu de ton état de pécheur, tu ne sauras pas de quoi on t'a pardonné. Et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et celui à qui on a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Et c'est quoi l'amour pour Dieu? C'est d'aimer les hommes, d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer notre prochain. C'est ça l'amour pour Dieu. Ça se manifeste comme ça. Je ne suis pas capable d'aimer plus que le niveau de la conviction de péché que j'ai acceptée. Si je m'approche de la sainteté de Dieu, je serai automatiquement convaincu de mon péché. Et aussitôt après, je serai convaincu de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ et qui me réhabilite, qui me relève et qui me rend la dignité que j'avais perdue. Et je vais pouvoir aimer parce que je vais dire, il m'a été beaucoup pardonné. Moi, je peux me tenir devant vous ce matin et de vous dire, il m'a été beaucoup pardonné. Il m'a été beaucoup pardonné. Et c'est pour ça que je ne suis pas dur avec les gens qui tombent. Parce que je sais que moi aussi je suis capable d'être comme eux, et pire peut-être. Heureusement que nous n'avons pas des prédicateurs
qui sont des anges. Parce que les anges sont tellement parfaits qu'ils n'auraient pas beaucoup de compassion pour nous. On a besoin de serviteurs et de servantes de Dieu qui savent ce que c'est qu'être humain. Et vous savez, parfois, nos chutes et nos épreuves et nos erreurs et nos fautes, même s'ils sont regrettables, ça peut tout de même servir à la gloire de Dieu. Parce qu'au moins, ça nous apprend que nous sommes fragiles et faibles, pauvres, aveugles et nus. Et nous allons pouvoir avoir de la compassion pour les autres. Mes amis, Dieu va faire quelque chose au milieu de vous. Et ça va commencer par un tourbillon de passion dans l'adoration qui va aller de plus en plus haut. Et à travers ça, la conviction de péché dans nos vies va augmenter. Et à travers ça, l'amour va augmenter parce que nous allons savoir de quoi nous avons été pardonnés. Et les dons vont être distribués, les appels vont être révélés et le peuple de Dieu va vouloir le servir avec beaucoup plus d'empressement, avec beaucoup plus de passion. Et quelque chose que le Seigneur va faire, c'est pour ça qu'il me donnait ce texte à cœur. Les séraphins disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est pleine de sa gloire. Regardez autour de vous, ils ont dit, la terre est pleine de sa gloire. Pourquoi est-ce que nous ne nous en rendons pas compte? Mieux que ça, pourquoi est-ce que nous prions sans cesse « Dieu, envoie ta gloire » ? La Bible nous dit que c'est un fait accompli, la terre est pleine de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle remplit cette pièce maintenant, comme si nous étions des poissons dans un aquarium, et la gloire de Dieu, c'est l'eau autour de nous. Vous êtes des poissons ce matin. Nous sommes l'Église ici, dans cette ville. Et Jésus habite ici, et là où Jésus habite, la gloire de Dieu est présente. Ce lieu est plein de la gloire de Dieu, mais nous avons besoin d'une révélation pour nous en rendre compte, sinon nous pouvons très bien être comme Osias, et nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de pénétrer dans la présence du Saint d'Israël, et nous ne savons même pas que nous ne sommes pas à notre place. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant, dans la gloire de Dieu. Il est ici, il est tout autour de nous. Ça me rappelle au début de ma conversion. Les gens me parlaient tout le temps de la présence de Dieu. Et moi, je ne sentais rien. Et je disais, oui Seigneur, je veux vivre par la foi, mais tout de même, j'aimerais bien quand même, un petit peu de temps en temps, ressentir quelque chose. Je disais, Seigneur, ouvre-moi les yeux, montre-moi. Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'es pas avec moi comme tu es avec tout le monde? Eux, ils me disent que quand ils prient, ils sentent ta présence. La sœur, une telle, elle me dit que quand elle prie, il y a un feu qui brûle dans son cœur comme les disciples d'Emmaüs. Mais pourquoi, Seigneur, moi, quand je prie, j'ai l'impression de parler au plafond? Je disais ça à Dieu dans ma chambre. Et je priais. Il ne se passait rien, il ne m'exauçait pas. Je pleurais, je disais, Dieu, envoie ta gloire, sois avec moi, manifeste ta présence dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? J'étais en train de prier complètement à côté de la plaque. Parce que j'étais en train de demander à Dieu de faire pour moi des choses qu'il avait déjà faites. Il est là, avec toi. Il t'aime. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il est là, il campe autour de toi parce que tu crains son nom. Sa présence est ici. Et parfois on dit, Dieu, sois avec moi, mais le Seigneur, il te répond, mais je ne peux pas, je suis déjà. Viens, Seigneur, mais je suis là, oh, oh. Ouvre tes yeux. C'est pour ça que ce cantique-là, ouvre les yeux de mon cœur, c'est très important. L'apôtre Paul y priait pour les Éphésiens, que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent connaître. Vous voyez, le problème des chrétiens, c'est pas qu'ils n'ont pas reçu, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Ils sont aveugles par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et ils ne se rendent pas compte, comme Jacob à Bethel, que c'est la maison de Dieu. Il est ici avec nous. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux, qui disait Jacob. Et il croyait que c'était lié à la pierre sur laquelle il avait dormi, parce qu'il était encore un petit peu pas très au point. Alors il a relevé la pierre, il a mis de l'huile dessus, et il a dit, cette pierre, c'est la maison de Dieu. Il n'avait pas encore tout à fait compris comment ça marche. Et il revenait dans ce lieu, Bethel, parce qu'il se disait, ça c'est la maison de Dieu. Mais Dieu, il est partout. Dieu, il est partout, mais il est d'une manière toute spéciale là où ses enfants sont réunis en son nom.
L'Écriture, elle dit plusieurs fois, la terre est pleine de la gloire du Seigneur. Mais le prophète Habacuc, il dit quelque chose de différent. Habacuc, il dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Nuance. La terre est remplie de la gloire de Dieu, mais la terre sera remplie de la connaissance de sa gloire, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Parce que, mes amis, c'est un fait accompli. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes environnés de la gloire de Dieu. Il est là. Mais Dieu, il désire que nous en ayons la révélation, que nous puissions avoir les yeux ouverts pour pouvoir contempler sa majesté, pour pouvoir avoir ce cœur à cœur avec lui, cette présence du Seigneur avec nous, qui nous réchauffe et qui nous rend passionnés pour son œuvre. Ça, c'est une révélation que nous avons besoin d'avoir. Pour revenir à ma petite histoire, quand je priais dans ma chambre comme ça, « Seigneur, viens, Seigneur, manifeste-toi, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes, etc. » Je ne peux pas dire que j'ai entendu quelque chose, mais c'est comme si tout à coup, le feu rouge passait au vert dans ma tête. Et je me suis arrêté. Et je me dis, mais enfin, bien sûr, je suis en train de demander à Dieu qu'il fasse pour moi quelque chose qui était déjà faite. Il ne peut pas exaucer ma prière. Viens, sois avec moi, c'est déjà fait. Et donc, je me suis rendu compte et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je suis en train, depuis quelque temps, de te prier par incrédulité. Vous savez que vous pouvez prier par incrédulité? Quand on demande à Dieu de faire pour nous des choses que la Bible dit qu'il a faites, déjà, on prie par incrédulité. Je priais par incrédulité, je dis, Dieu fait ça, et Dieu, il avait déjà promis qu'il l'avait faite. Et alors, je me suis dit, ben, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais changer ma manière de prier. Et je vais plus te demander de venir. Et je vais plus te demander de ne pas m'abandonner. Et je vais plus te demander d'être là, parce que la parole de Dieu dit que tu es là. Et ce jour-là, j'ai fait ceci. Seigneur, je ne sens rien, mais je te remercie parce que ta parole est vraie et tu es présent. Merci parce que tu es là à mes côtés, tu habites en moi, je suis ton temple. Merci parce que tu es venu et tu ne m'abandonneras pas et même je peux dire que tu campes autour de moi parce que je te crains, tu es là Seigneur. Et pendant que j'étais en train de dire ça, c'est comme si l'atmosphère autour de moi commençait à changer. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si tout à coup l'air dans la pièce était devenu chaud. Et c'était comme si mon cœur au-dedans de moi se dilatait et il y avait un feu qui commençait à brûler dans ma poitrine. Et je me rappelais les disciples d'Emmaüs qui disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et puis, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais pas tout seul, qu'il y avait quelqu'un d'immense qui était avec moi. Tout autour de moi et en moi, la présence de Dieu, elle avait toujours été là. J'aurais fait une erreur de penser qu'il était venu. Il n'est pas venu. Il a juste permis que je voie ce qui était déjà là. Et vous savez quoi? C'est ça que Dieu va faire dans votre communauté, dans une plus grande mesure, dans un plus grand degré, au fur et à mesure que vous allez l'adorer et passer des paroles que l'on dit parfois à la réalité qu'elle représente et tourner votre cœur vers Dieu en le remerciant pour sa présence. Il va se passer dans cet endroit quelque chose. Les yeux vont commencer à s'ouvrir, les yeux spirituels, les yeux du cœur vont s'ouvrir et vous allez vous rendre compte de la présence de Dieu d'une plus grande manière parce que la Bible, elle dit que la terre est remplie de sa gloire et c'est comme les eaux qui couvrent le fond de la mer. Vous savez, dans l'océan, il y a des endroits où il y a 11 kilomètres de profondeur. Qui a déjà fait un petit peu de plongée ou en tout cas qui est descendu au bas de la piscine? C'est déjà un peu plongé. À 2 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui se passe quand on descend à 2 mètres de profondeur et 3 mètres et tout? Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Oui. Hein. Les oreilles qui sifflent et ça fait mal au tympan parce qu'il y a une pression. Imaginez descendre au fond de l'océan Pacifique à 11 km de profondeur. Imaginez un petit peu la pression que vous subiriez là. La Bible, elle nous dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu comme les eaux couvrent le fond de la mer. Si nous avions ici la pleine révélation de la présence de Dieu, on n'arriverait plus à se lever. on serait prosterné face contre terre et on dirait « Seigneur, au secours, réduis la force de ta présence parce que je vais mourir. » Je ne peux plus respirer, Seigneur, tu es trop grand, tu es trop intense. Quand la gloire de Dieu est descendue dans le temple de Salomon, les prêtres sont sortis parce qu'ils ne pouvaient plus officier en présence de la gloire. C'était trop intense. Le mot hébreu pour gloire, ça veut dire poids, pesanteur. Kabod, c'est le mot pesanteur. Quand nous avons une révélation de la gloire de Dieu, c'est comme si Dieu venait peser, siéger lourdement, pesamment sur notre vie. Et ça peut atteindre des moments où des proportions tellement grandes que nous crions « malheur à moi ». Seigneur, je ne sais pas en quoi j'ai encore péché contre toi, mais je crois que c'est plutôt une révélation de ma nature pécheresse. Seigneur, malheur à moi, sauve-moi, je suis dans ta présence. J'ai besoin que tu changes ma vie, Seigneur. Et pourtant, je crois que je suis déjà arrivé quelque part. J'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin que tu me guérisses. Et c'est dans ces moments-là qu'on va vivre des moments intenses de rédemption, de délivrance. Comment amener ça dans l'Église ? Par l'adoration. Une Église qui adore, c'est une Église où Dieu siège. Il siège au milieu des louanges. Et Dieu est très lourd. Dieu est très pesant. Et quand il siège au milieu de nous, c'est un poids de gloire. L'apôtre Paul parle d'un poids éternel de gloire quand nous sommes dans la présence de Dieu. Vous voyez, c'est ça le plus important. Et c'est la clé, c'est le message que Dieu m'a demandé de vous partager ce matin. Cherchez dans l'adoration là où Dieu veut vous faire aller loin. Cherchez à vous élever dans un cœur à cœur avec lui, dans encore une plus grande mesure que ce que vous connaissez déjà. Et la présence douce de Dieu qu'il y a au milieu de vous va devenir une présence pesante. Une présence telle que si quelqu'un passe par cette porte, il va dire « Dieu est vraiment au milieu de vous ». Une présence telle que quelqu'un va venir dans l'église, un chrétien peut-être, mais qui vit une vie un petit peu de travers, et qui pense que personne ne s'en rend compte. Il va venir, il va dire « Je sais pas pourquoi, mais je pleure sur mes péchés ». Je veux me repentir, pasteur. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux changer de vie. C'est parce que la présence de Dieu est là. Nous avons vécu il y a à peu près un an quelque chose d'assez spécial dans notre communauté à Courcelles. Il y a un jeune homme qui était drogué et qui est rentré dans l'église. Il a presque 30 ans. Il était ivre d'alcool et drogué. Et il rentre dans l'église. Alors on se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ça? Vous savez, parfois nous les chrétiens, on est très rapides à juger. Hein. On l'a regardé, on s'est dit, oh, il est pas propre, il sent pas bon, pour l'alcool. Et au lieu de l'aimer comme Jésus l'aimait, on l'a jugé. On n'est pas allé près de lui. Je fais mon mea culpa aujourd'hui. Hein. Mais alors le jeune homme, il s'est assis dans l'église et puis on a commencé à adorer. Et la présence de Dieu est descendue sur l'église. Le jeune homme, il s'est levé. Il a vu qu'il y avait des chrétiens qui étaient debout au premier rang. Alors il s'est mis avec eux et il a levé les mains comme ça. Il savait pas pourquoi il faisait ça. Il savait pas à quoi ça servait. Il savait même pas qu'il y avait un Dieu. Et il a ressenti trois vagues de l'amour de Dieu qui l'ont traversé de la tête aux pieds. Et c'était comme si, c'était comme une vague de chaleur et d'amour qui est passée de sa tête jusque dans ses pieds. Trois fois. Wouf! 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 Sobre et délivré de la drogue. Comme ça. Personne n'a prié pour lui. Personne n'a chassé les démons. Dieu l'a délivré alors que le garçon n'était même pas encore sauvé. Il était sobre et délivré en 2 secondes. Mais quel grand Dieu on sert. Vous savez, quand nous sommes dans la présence du roi des rois, il y a plus de bonnes choses qui se passent par accident que quand nous le faisons exprès. Parce que si l'Église s'est seulement limitée par mes capacités, ben il se passera pas grand-chose. Mais si l'Église, c'est la présence du roi des rois au milieu de nous, alors il se passera des choses incroyables. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Et ce qu'il faisait en Israël il y a 2000 ans, il peut encore le faire au milieu de nous. Et il n'est pas obligé de passer par moi ou par toi. Il peut faire souverainement des choses comme il en a envie. Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant et il vient siéger dans nos louanges. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je pense que Là, il faut gratter, là, il faut chercher, là, il faut sonder, là, il faut s'approcher de Dieu, avoir la liberté de s'approcher de lui dans l'adoration, y accorder une plus de place, et il va venir siéger, il va venir se glorifier, et le poids de sa gloire va s'intensifier. Comment est-ce qu'on sait qu'on plaît à Dieu quand on loue, quand on adore? Je vais vous dire, plus la présence de Dieu se fait pesante, plus ça lui plaît. C'est sa manière de te dire, continue. Qui ici a un compte Facebook? La moitié. Ceux-là, ils n'ont pas de Facebook, il y en a quelques-uns qui en ont par ici. Donc ça, c'est le groupe des 100 Facebook, et là... Sauf que ma femme, elle ment parce qu'elle en a un. Comment est-ce qu'on dit « j'aime » sur Facebook? On clique sur... Il y a un petit pouce comme ça qui dit « j'aime ». Sur Facebook, quand tu postes ta photo de tes vacances et que je trouve que c'est un bel endroit, je clique « j'aime », pouf, il y a une petite main qui apparaît. Eh bien, Dieu, comment est-ce qu'il dit « j'aime » ? Dieu, il te dit « j'aime ce que vous faites » quand il manifeste sa présence au milieu de vous. C'est sa manière de dire « clic, j'aime ». Voyez, comment est-ce que Dieu a montré à tous que Jésus est celui en qui le Père met toute son affection. En d'autres termes, j'aime. Comment est-ce qu'il l'a montré? Je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et demeurer sur lui. C'était la manière de Dieu, dans son compte Facebook céleste, de dire j'aime. Il voyait son fils aller dans la rivière, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et il dit, voici mon fils bien-aimé, j'aime. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et comment est-ce que je vais le montrer? L'Esprit descend comme une colombe là et repose sur lui. Quand nous faisons quelque chose qui plaît à Dieu, sa présence descend. C'est pour ça que quand un cantique, c'est des choses pour Camille peut-être, quand un cantique plaît vraiment à Dieu, tu le ressens dans tout ton être. Il y a un feu qui brûle en toi. Et quand un cantique plaît vraiment à Dieu, l'Église a envie de le chanter parce que nous sommes comme enthousiasmés à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. N'interrompez jamais Dieu quand il est en train de faire quelque chose. Parfois, vous savez ce qu'on fait? On dit, on a chanté ce cantique, on va changer de cantique. Mais c'était celui-là qu'il fallait garder. Jusqu'à ce que Dieu vous montre qu'il faut arrêter. On avait des invités à l'Église il y a quelque temps et ils disaient, mais pourquoi est-ce que vous chantez le même cantique 5-6 fois? Une fois, c'est bon. Mais moi, tant qu'il plaît à Dieu, je vais le chanter. Moi, si je dois crier « Saint, Saint, Saint » pendant l'éternité, ça ne me déplaît pas pourvu que ça plaise à Dieu. C'est pas de chanter pour chanter, mais c'est « Seigneur, ça te plaît ?» Oui, ça te plaît. Je sais que ça te plaît parce que ta présence, elle est là. Alors je vais continuer à chanter « Saint, Saint, Saint » jusqu'à ce que je perçoive qu'il faut passer à autre chose. Et c'est comme ça qu'on construit une réunion dans laquelle la présence de Dieu grandit, 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 grandit. Et puis après, à un moment donné, tu as des larmes sur les visages. Des gens se repentent. Les gens viennent et ils disent « je veux donner ma vie à Jésus ». Parce que quand Jésus est élevé, il attire vers lui tous les hommes. Et notre tâche, c'est de l'élever. Mes amis, je ne peux pas le dire suffisamment, je vais clôturer, mais je ne peux pas vous le dire suffisamment. Là où vous allez aller loin, là où vous allez avoir une percée, là où les promesses que Dieu vous a faites vont s'accomplir, c'est à travers cet esprit de louange et d'adoration que vous avez. D'aller de plus en plus loin là-dedans. De ne pas interrompre Dieu, de le laisser intensifier sa présence. De devenir comme des séraphins. Qui brûlent et qui brûlent et qui brûlent parce qu'ils sont si proches de Dieu. Et ils crient « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Seigneur, toute la terre est pleine de ta gloire. Mais maintenant, Seigneur, donne-nous ce matin, Seigneur, d'avoir une révélation de la connaissance de ta gloire. Transforme notre vie ce matin, Seigneur. Par une révélation de ta gloire. Prions ensemble quelques instants. Seigneur,